Lorsqu'on a des conversations ou qu'on écoute les gens parler, assez souvent, vous l'avez certainement remarqué, dans la conversation, on glisse quelque chose comme lorsque j'étais à l'université ou dans ma formation, où je suis responsable de ceci ou de cela. Les gens aiment bien se montrer un peu et expliquer, dire, se présenter. Alors j'ai pensé qu'aujourd'hui, j'allais aussi un peu jouer dans ce jeu-là. Et puis, j'aimerais vous parler de quelques-uns de mes diplômes, parce que j'en ai aussi. N'ayez pas peur. Mais c'est un peu une façon d'introduire la chose. J'ai quelques diplômes qui sont encadrés, qui sont suspendus dans notre habitation, et puis qui nous rappellent un peu ce qu'on est, par où on a passé, les acquis que nous avons. Acquis, reçu. Bon, c'est les photos, puis c'est le... Voilà, ça c'est le premier diplôme que j'aimerais vous présenter. Il se trouve suspendu en face de la porte de la chambre à coucher. Lorsqu'on se lève le matin, on ouvre la porte et on tombe sur ce diplôme-là, diplôme entre parenthèses, et ce diplôme nous dit « Christ est ma vie ». C'est important de, le matin, avant d'entrer dans l'activité de la journée, dans le flot des choses qui vont nous arriver, des soucis, des problèmes, de tout ce qui a réglé, de se souvenir qu'aujourd'hui, Christ est ma vie. C'est qu'une partie de ce verset qui se trouve dans Philippiens chapitre 1 verset 22, et ce verset nous dit Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Alors on peut dire bien sûr, lorsqu'on sera décédé, on ira auprès de Jésus, et puis à ce moment-là on réalisera que c'est un bienfait d'être mort. Mais ici, il n'est pas dit « Christ sera ma vie », mais il est dit au présent « Christ est ma vie ». Ça signifie certainement qu'il y a une autre forme de mort. Et cette mort, eh bien, ce qui est un gain pour moi, c'est d'être mort à moi-même, pour que Christ puisse exprimer sa vie au travers de moi. Christ et ma vie, c'est donc au présent. On se souvient de cet enfant qui répétait, exerçait ses temps de conjugaison, et puis il disait « Hier, c'est le passé, demain, c'est le futur, et aujourd'hui, c'est un présent, c'est un cadeau. » Eh bien, aujourd'hui, chaque jour est un cadeau que Dieu nous offre. Et c'est une occasion pour lui de se manifester au travers du renoncement à nous-mêmes. Dernièrement, François nous a partagé ce passage dans Colossiens chapitre 3, les premiers versets. Là, mais le premier verset commence par « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ ». Alors je me suis un peu demandé, mais quelles sont les conditions pour être ressuscité, pour que cette vie de Christ puisse se manifester en nous ? C'est un peu une vérité de la palisse. Pour être ressuscité, il faut d'abord être mort. On peut vivre, mais il faut mourir pour pouvoir ressusciter. Seulement ce qui est mort peut ressusciter. Eh bien, c'est aussi lorsque notre personnalité, notre qualité, tout ce qu'on peut présenter au Seigneur peut être amené dans la mort, qu'on peut aussi bénéficier de cette vie de résurrection. Et dans cette vie de résurrection, on est appelé à nous affectionner aux choses qui sont en haut, non à celles qui sont sur la terre. Parce que justement, notre vie est cachée avec Christ en Dieu. Dans Galates, on lit que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident. puisqu'il est dit « le juste vivra par la foi ». Cet aspect d'une vie de résurrection, elle s'acquiert et on en bénéficie uniquement par la foi. Si on attend de voir que ça soit vrai dans nos vies, si ça deviendrait vrai, ça serait plus de la foi. La foi, elle croit les choses, elle accepte, elle s'empare des choses avant que ça soit la réalité, avant que ça soit une expérience. Et dans Tite, il est dit « Ainsi déclarés justes par sa grâce, nous sommes devenus héritiers. Déclarés justes comment ? Par nous-mêmes, parce qu'on a réussi de faire ? Non, parce que la grâce de Dieu nous est accordée. C'est cette grâce qui peut nous permettre d'être déclarés justes et de pouvoir se présenter avec confiance, avec foi, devant Dieu. Et la grâce, elle ne peut pas se mériter, sinon ce n'est pas une grâce. Mais ce qu'on peut, c'est honorer cette grâce qui nous est accordée, honorer cette vie de Christ qui nous a été donnée. C'est la première chose qu'on constate chez nous lorsqu'on sort du lit. Puis ensuite, si tu nous passes le suivant, on arrive à un deuxième diplôme, entre guillemets, qui nous dit « Ne crains pas, crois seulement ». Ce verset, c'est la parole de Jésus qui s'adresse à Jaïrus, ce chef de la synagogue, qui est désespéré parce que sa fillette est en train de mourir. Il voit bien que ça, c'est la fin, que c'est la catastrophe. Et en désespoir de cause, il cherche Jésus, va le chercher, et Jésus accepte de le suivre. Mais en cours de route, eh bien, il y a cette femme qui arrive, Jésus est freiné, il est empêché d'avancer. Ce pauvre Jaïrus, il devait se dire, mais la dame là, ça fait combien, 12 ans qu'elle est malade, d'un jour de plus, un jour de moins, ok, ma fille, c'est maintenant que j'ai besoin. Il était vraiment à l'échéance, à la dernière limite. Et en plus de ça, eh bien voilà le coup de grâce qui arrive. On vient lui annoncer, arrête d'importuner le maître, ta fille est morte. Et c'est là, dans ce moment d'extrême, la fin de l'histoire, il n'y a plus d'espoir, que Jésus lui dit, ne crains pas, crois seulement. C'est à ces moments-là qu'on a besoin de foi pour s'appuyer sur ces versets, sur ces promesses de Christ. Et dans cette histoire, on constate qu'il y a deux aspects. D'une part, Jaïrus est testé à la limite, vraiment à l'extrême limite. Jésus attend et le but, c'est de tester encore un peu plus près de la limite ce Jaïrus. Mais aussi, ça donne à Jésus l'occasion de se glorifier d'une manière plus magnifique, plus glorieuse. Donc, on peut regarder l'aspect négatif, mais on peut regarder aussi à Jésus qui va se glorifier dans nos situations. Et s'il attend que ça soit l'extrême limite, eh bien, c'est aussi pour qu'il puisse se glorifier davantage. Maintenant, ce que j'aimerais aussi présenter, c'est la façon dont ce diplôme a été fabriqué. C'est une feuille blanche. Et sur cette feuille blanche, le texte a été écrit avec de la peinture à l'eau, avec de la gouache qui se dilue à l'eau, une gouache blanche. Alors écrit blanc sur blanc, ça ne se voit pas vraiment beaucoup. En faisant jouer la lumière, en s'appliquant, on peut le voir. Et dans nos vies aussi, lorsque tout va bien et qu'on a une promesse du Seigneur, c'est bien, on aime bien, mais ça ne nous touche peut-être pas plus que ça. Une fois que c'est écrit avec cette gouache blanche, avec une encre d'imprimerie, une encre grasse, on est venu salir le texte avec des mots négatifs tels que doute, peur, séduction, persécution, et puis ça se répète, et puis ça revient, jusqu'à ce que le texte, la promesse, soit complètement recouverte, qu'on ne la voit plus. Et à ce moment-là, comme pour Jaïrus, en lavant la feuille blanche, la gouache s'est dissoute à l'eau, et puis elle est partie, et en enlevant la couche de noir qui était dessus, et le texte est réapparu. Et cette fois-ci, il est vraiment bien lisible, il est vraiment bien contrasté. C'est aussi dans nos vies, lorsqu'on a des épreuves, qu'on voit vraiment, c'est en quelque sorte au pied du mur qu'on reconnaît le maçon, quoi. C'est là que la promesse, que la parole du Seigneur va briller, va ressortir, et elle va aussi être lisible pour les autres. Comme par hasard, ce diplôme se trouve juste à côté de l'horloge qui sonne les heures. Et je trouve que c'est pas si mal que ça, quand l'horloge rappelle une heure qui est peut-être désagréable, pour laquelle on a une certaine anxiété, eh bien, cette promesse du Seigneur, elle est là aussi. Ne crains pas, crois seulement. Maintenant, si tu nous passes le... Voilà, merci. C'est peut-être un peu dur à entendre, mais ici, aux Corinthiens, l'apôtre le écrit, « Notre espérance à votre égard est ferme parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez aussi part à la consolation. » C'est vraiment encourageant, peut-être d'accompagner ou d'être soi-même dans les difficultés ou d'accompagner quelqu'un dans la difficulté quand il peut se confier dans le Seigneur et qu'on peut savoir il y a une épreuve, il y a une difficulté, c'est pas fini, le Seigneur attend peut-être encore un peu pour se glorifier davantage, mais nous avons part aussi à la consolation. Le Seigneur est avec nous dans toutes nos situations et il nous accompagne. Ceci nous amène au diplôme suivant. Dans ces situations, on a quelquefois les pensées qui partent dans tous les sens. Et ce verset ici, c'est le verset du psaume 94 pour les Suisses, 94 pour les Français, le verset 19, où le psalmiste dit, bon, on ne peut pas tellement le lire là, mais en vrai, on peut le lire. Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. C'est un peu le complément de l'image précédente. Quand les pensées nous arrivent, mais je pense que tout le monde passe par là, en tout cas moi c'est des fois le cas, une pensée vient, une deuxième s'additionne, s'en forme une troisième qui prend une autre couleur, qui se mélange et ça fait des vagues. Et puis ces pensées s'agitent dans tous les sens. Mais là au travers, de nouveau, tes consolations réjouissent mon âme, le calme est rétabli par la parole du Seigneur, en plongeant dans ses promesses, dans ce qu'il nous a laissé dans sa parole. C'est un verset qui a son pendant dans Philippiens 4, où on a une situation de nouveau où les pensées partent dans tous les sens, ou en quelque sorte. On se souvient, il y a ces deux sœurs qui ont raison les deux, et puis personne ne va avoir tort, et puis il faut les aider. Et Paul appelle les autres, les membres, à les aider, à être unis dans le Seigneur, et il leur donne la solution. Et cette solution, c'est « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que vos douceurs soient connues de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et voilà les pensées. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Quand les pensées partent dans tous les sens, eh bien, on peut se fier, s'appuyer sur cette paix de Dieu. Et cette paix de Dieu, elle dépasse toute connaissance, toute intelligence, tout raisonnement. On ne peut pas l'analyser, la comprendre. Mais cette paix de Dieu, quand on se confie dans le Seigneur, quand on est en présence de sa parole, eh bien elle devient si réelle que les vagues se calment, qu'on peut se réjouir dans le Seigneur. Et c'est dans la réjouissance de ce qu'il est, de ce qu'il a fait, de ce qu'il est pour nous, que nos pensées vont être aussi assagies, calmées, et qu'on pourra se trouver dans la paix. Un autre diplôme, alors ça, je ne sais pas si on peut lire, pas moi, mais Christ. C'est le résumé de ce verset de Galates 6, verset 14, non, de Galates 2, 20, qui vient après Galates 6. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi, mais Christ, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. C'est plus moi, c'est Christ. C'est un peu le complément de ce qu'on vient de voir jusqu'à présent. Dans la mesure où je disparais, où mes acquis, ce que j'ai, comme ce jeune homme riche, qui Jésus appelle à vendre tout ce qu'il a, si je peux le vendre, eh bien, je peux arriver à suivre aussi le Seigneur et puis être dans la paix et pouvoir le suivre. Dans Galates 6, j'y reviens, Paul dit « Mais qu'il ne m'arrive pas à moi de me glorifier, sinon en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde m'est crucifié et moi au monde. » La porte d'entrée, la solution, elle se trouve à la croix de Christ, où je peux me considérer crucifié avec Christ pour pouvoir bénéficier de cette vie de résurrection. Et dans Jérémie, voilà ces versets, l'Éternel, Jérémie qui se pose des questions, il dit « Mais je suis trop jeune, et puis pas moi, et puis qu'est-ce que... » Et puis d'ailleurs, ce qu'il devait aller annoncer, ce n'était pas très réjouissant. Eh bien, le Seigneur le fortifie en lui disant « Je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Si Dieu l'a dit, ça ne dépend pas de moi, mais lui va veiller sur sa parole en entier et pour toujours. Et cette parole doit arriver à l'exécution. On n'a pas besoin d'avoir confiance en nous, mais on peut avoir confiance dans sa parole et savoir que Dieu est Dieu et que ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Maintenant, ce qui m'a permis de... Non, peut-être avant, encore l'autre. Voilà. Encore un diplôme qui se trouve, celui-là. Lorsqu'on ouvre la porte de la maison, eh bien, juste là, il y a ce verset de Marc. Repentez-vous et croyez à l'Évangile. Pour pénétrer dans ces promesses de Dieu, eh bien, il y a une porte étroite, et puis cette porte, c'est la repentance. Cette parole, repentez-vous et croyez à l'Évangile, elle se trouve dans Marc, chapitre 1, verset 15, donc c'est la toute première parole que Jésus prononce quand il entre dans son ministère. Aujourd'hui, on aimerait avoir un évangile qui dit « Tout va bien, Jésus vous aime, recevez tout gratuitement, tout est beau, tout est merveilleux. » Mais le Seigneur commence par « Repentez-vous. » Renoncez à vous-même, arrivez à prendre conscience de votre état de perdition devant Dieu, et alors on pourra croire à l'évangile et entrer au bénéfice de toutes ses promesses. Reconnaître sa culpabilité, la condamnation juste pour parvenir et bénéficier de sa grâce. Ce qui m'a permis de me vanter un peu de tous ces diplômes, j'ai pris exemple sur l'apôtre Jean. L'apôtre Jean, lorsqu'il parle de lui, il pourrait dire « Moi, Jean, fils de Zébédée, pêcheur professionnel, spécialisé dans la réparation des filets, je suis devenu apôtre disciple de Jésus. » Bien, Jean, il oublie sa filiation, il oublie ses acquis, ses qualités, ses capacités, il oublie tout, et il n'y a plus que l'amour de Jésus qui compte pour lui. Quand il se présente, il dit « le disciple que Jésus aimait ». Pas même « j'aime Jésus ». Pourtant, c'est vrai, on l'aime. Mais ce qui compte, ce qui est précieux, c'est pas ce qu'on fait pour lui, mais c'est ce que Jésus a fait pour nous. Et ce qu'il a fait, c'est par amour. Et quand on peut dire « je suis celui que Jésus aime », ça met beaucoup de choses de côté dans nos vies, ça trie pas mal de choses, et sans accusation, mais simplement quand on est conscient de l'amour de Jésus, ce qu'il a accompli, ce qu'il a fait pour nous, qu'il allait à la croix, qu'il a souffert et qu'il est enseveli, qu'il est ressuscité pour nous, il y a des choses qui coincent, on ne peut plus si facilement mentir, on ne peut plus si facilement tricher ou trouver des combines. Si on est aimé par Jésus, simplement se rappeler « je suis celui que Jésus aime ». En fait, l'apôtre Paul, il va un peu dans la même direction. Quand il a des détracteurs qui veulent le contrarier, le critiquer, le démolir, il n'annule pas tellement toutes ses qualités, mais dans 2 Corinthiens 11, il va plutôt présenter tout par les difficultés par lesquelles il a passé. Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Plutôt que d'aligner qu'il a guéri des malades, qu'il a fondé des églises, qu'il a fait ceci et cela, eh bien, il s'appuie sur ses épreuves, sur toutes ses difficultés, et c'est ça qui fait finalement qu'il permet de se justifier vis-à-vis de ceux qui sont des beaux parleurs, qui en mettent plein la vue aux gens et qui se présente de cette façon-là. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. C'est lorsque on peut dire « je suis mort avec Christ » que la vie de Christ peut se manifester et qu'on peut vivre véritablement de la vie de Christ. Et l'apôtre Paul, quand il aligne tout ce qui lui est arrivé, il se glorifie de sa faiblesse et puis il semble s'arrêter là. Et puis encore la cerise sur le gâteau, en quelque sorte. Là, il dit, se souvient comme de quelque chose d'encore plus, de plus remarquable. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damaséniens pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappai à leurs mains. Pour dire, bon, ben, naufrage, c'est encore autre chose. Hein. L'être lapidé, c'est terrible. Ben non, il met en avant cet aspect-là. Et puis, il ne parle pas de la grandeur du bateau, de la hauteur des vagues, dans ce naufrage. Mais là, il parle d'une corbeille, il parle d'une corde, il parle d'une fenêtre. Il semble donner plus de détails à cet aspect, à ce moment-là, qu'aux autres. Et c'est tellement remarquable. Paul, qui pouvait expliquer des choses qui sont difficiles à comprendre, qui pouvait se dépenser pour Christ, qui était un savant, qui était un érudit, le voilà qui se met dans une corbeille, au bord de la fenêtre, et puis on le descend. Il y a la corbeille, c'était quoi? J'imagine qu'ils ont vidé un panier de patates, là, pour prendre une corbeille, il fallait trouver une corbeille, là, tout de suite. Une corde, il a fallu faire des nœuds, il a fallu... Et puis, il y a Paul qui est complètement disparu, il fait nuit. Il est dans sa corbeille en train de descendre, de se cramponner là-dedans. Il y a le vide dessous et il dépend des frères et sœurs qui tiennent la corde en haut de la muraille. Et ça, Paul nous présente en quelque sorte le corps de Christ, l'utilité de chacun d'entre nous à sa place. Il y a dû avoir quelqu'un qui savait faire des nœuds solides pour crocher la corbeille, il a dû avoir des gros bras pour tenir la corde, le faire descendre. Et puis Paul était à la merci des frères et sœurs. Et qu'on sache aussi qu'on est dépendant les uns des autres, qu'il n'y a pas quelqu'un qui fait tout et puis sur qui on se repose. On ne peut pas être dans l'église, dans le culte, et puis être simplement des consommateurs, recevoir des bénédictions, puis des belles paroles, puis des encouragements. Mais il y a besoin de gens qui tiennent ceux qui descendent par la muraille. Il y a besoin de gens qui soutiennent ceux qui sont engagés. Et il n'y a pas des gens plus importants que les autres. Ça forme un corps. Et ensemble, on peut être le corps de Christ. Et au travers de nous, Christ va pouvoir s'exprimer pour nous et vis-à-vis de l'extérieur aussi. Je trouve que c'est assez magnifique et j'ai juste envie de dire gloire à Dieu. Maintenant, j'ai encore un dernier. Voilà. Je ne sais pas si on peut bien lire. Mais c'est ce verset de Romains 3. Car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Il a été arraché du feu, mais il est bien là. Et ici, il y a un sceau, la cire cachetée sur le sceau, c'est scellé, ce qui est écrit sur le sceau, c'est « Tout est accompli ». C'est vrai, nous sommes pécheurs perdus, tous ont péché, ils nous sont privés de la gloire de Dieu, mais nous sommes justifiés par sa grâce, pas parce qu'on a pu accomplir. La grâce est gratuite, si c'est mérité, c'est plus de la grâce. On ne peut pas y apporter quelque chose, on peut juste dire merci et se réjouir en Jésus-Christ comme on l'a vu dans l'Épître aux Philippiens. Réjouissez-vous en Jésus-Christ. Je répète, réjouissez-vous. Amen.
Ces versets, ces images, ce n'est pas des icônes. Ce n'est pas des icônes qui sont chargées mystiquement de force particulière. Ce sont des diplômes. Un diplôme, c'est simplement l'attestation de quelque chose qui s'est passé. C'est la réalité. Ça ne vaut rien, c'est un papier. Ce qui vaut quelque chose, c'est ce que ça atteste. On pourrait le comparer à un post-it qu'on met sur la porte du frigo pour ne pas oublier. Bien, là aussi, les paroles, ce n'est pas des paroles à adorer, mais c'est des paroles qui ont leur accomplissement, qui ont été réalisées et sur lesquelles on peut s'appuyer à ne pas oublier.
Merci beaucoup Jean-Luc pour toutes ces bonnes nouvelles qui fleurissent dans ta maison et que tu nous fais partager ce matin. Le Seigneur Jésus nous a laissé un signe très particulier aussi pour nous rappeler de lui. C'est le pain, c'est le vin de son repas. Nous allons maintenant prendre le temps de partager ce repas de fête. Bien sûr, un petit bout de pain, un petit gobelet de jus de raisin, c'est peu de choses. Mais c'est un avant du grand festin qui nous attend dans le royaume. Nous prions. Il est tellement bon, Seigneur, Père du ciel et de la terre, de célébrer une nouvelle fois ta louange ce matin, de te célébrer pour la richesse des bénédictions que tu déploies parmi nous en Jésus ton Fils. Jésus qui a pris résolument un jour la route de Jérusalem et qui nous invite à le suivre dans cette montée où il s'offre, dans ce passage vers la vie. Nos souffrances, nos échecs, nos angoisses ne sont plus des impasses dans les ténèbres, mais ce chemin où Jésus nous rejoint pour nous conduire vers la lumière. Amen. Et nous voulons chanter au Seigneur, combien nous voulons nous rapprocher de lui. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi, nous disait Jean-Luc. Te ressembler, Jésus, c'est mon espoir suprême.